grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 31 juillet 2015. Bienvenue à cette émission. Merci donc de nous recevoir chez vous. Nous sommes donc vendredi et nous avons comme invité quatre confrères de la presse privée, Youba Konaté du Zénith Balé, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, David Dambélé de la Dépêche du Mali et également Lafia Sinaba pour débattre de trois sujets, la démolition des 60 logements de Souleymane Bougou, le forum des femmes leaders et également les programmes de logements sociaux. Nous sommes donc ensemble pour 45 minutes de débat.
Studio Tamani.
Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Nous allons commencer tout d'abord avec le programme de démolition. Donc, des 60 logements de Souleymane Bougou. Le jeudi 23 juillet 2015, les bulldozers ont procédé à la démolition d'une soixantaine de maisons à Souleymane Bougou, près de la commune 1 du district de Bamako. Les victimes disent avoir les documents en règle avec la loi. De leur côté, les autorités estiment que les constructions érigées sur ce site de Souleymane Bougou obstrue les servitudes publiques et porte atteinte au domaine fluvial qui, comme toutes les servitudes publiques, porte donc atteinte aux populations elles-mêmes qui sont installées sur le site. Autre dépendance du domaine public est inaliénable et imprescriptible selon le ministre des Domaines. Pour rappel, selon son cabinet chargé du domaine, donc après ses visites de terrain, après donc constat de visu de ces faits de marquage et de démarquage par la population. Ils ont donc procédé à la démolition de ces maisons. Alors, à chaud, quelle réaction est-ce que vous avez quelques jours après la démolition de ces logements, Célia?
Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. Quelle est ma réaction? Eh bien, déjà une réaction de tristesse, c'est normal quand on voit des images de maisons détruites, on est un peu peiné pour les propriétaires de ces maisons. Mais encore une fois, la loi, c'est la loi. De la lex, c'est de lex, tout simplement.
C'est
ça, ma réaction.
Oui, à ce niveau, comme ma brillante consœur l'a dit, la loi, elle est dure, il faut l'appliquer, mais je pense que cette même loi, si elle s'applique, elle doit s'appliquer à tout le monde. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et c'est regrettable.
Alors, David?
Je dis que tout simplement que la manière n'y était pas. La manière n'y était pas. On parle de loi, bien sûr. Je suis d'accord avec ma consœur Célia. Mais cette même loi permet d'obéir à des procédures. Et donc, en la matière, les procédures n'ont pas été respectées, comme l'a laissé entendre le ministre des Affaires foncières lors de sa conférence de presse. Je le dis pour beaucoup de raisons que je vais énumérer.
Alors, Yuba, réaction.
Ok, merci Famoussa de me permettre une fois de plus de donner mes points de vue par rapport à cette question de la démolition des logements de Souleymane Bougou. Moi, je pense qu'il y a eu un problème déjà. C'est-à-dire que c'est l'acteur même qui pose problème. C'est-à-dire que monsieur le ministre, qui est l'actuel ministre de l'urbanisme et des affaires foncières, est de type polémiste. Donc déjà, ça pose problème. Voilà, et monsieur,
vous parlez de ses sorties?
Voilà, de ses sorties depuis qu'il est au ministère de la Justice. On dirait qu'il est vraiment engagé pour le bras de fer. Donc déjà, ça crée un problème. Il y a des précédents qui ne plaident pas pour lui. C'est ça le problème. Sinon, moi, je pense que la loi, c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. Maintenant, mais celui ou celle qui commandite la loi, c'est, puisque derrière la loi, toujours, il y a un citoyen malien, n'est-ce pas? Ça pose un problème. Toute la polémique, c'est vraiment autour de M. Batili qui était un fervent partisan des bras de fer.
Alors, donc, je reste sur cette lancée de Yuba. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Batili, s'est personnellement investi dans cette affaire. Et est-ce que cela ne va pas gêner la suite de la procédure judiciaire? On se rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, une action similaire avait aussi alimenté la presse avec le même ministre Batili, mais qui avait en charge donc le ministère de la Justice à cette époque. Je vous propose sa réaction juste après la démolition l'année dernière de près de 300 logements à Kalabambou.
Ils ont cassé les lieux sans même demander au procureur qui veille sur l'ordre public. On sait même en matière de droit que pendant des saisons délicates comme l'hivernage au Mali, on n'expulse pas quelqu'un. Vous avez entendu ici, on vous a dit qu'une petite fille est morte suite au fait qu'on l'a jetée dehors avec sa mère sous la pluie et qu'elle n'a pas survécu à la maladie qu'elle a attrapée. Donc le procureur n'en a été informé que lorsque moi je l'ai appelé pour lui dire « Est-ce que vous êtes au courant de ce problème ?» Il m'a dit non et je lui ai donné les dossiers. Nous l'avons lu ensemble. On était étonnés que pour l'exécution d'un jugement portant sur deux familles, on ait cassé tout un village. Vous voyez, c'est des malades. C'est pas moi qui lui réserve un sort, mais la loi lui réserve un sort et je tiens à ce que la loi s'applique. On a l'habitude de dire « La loi est dure, mais c'est la loi ». Dura lex, sed lex, et on va l'appliquer dans toute sa rigueur et rien que sa rigueur. Tout le monde répondra de son comportement dans ce dossier-là.
Alors, vous l'avez entendu, le ministre de la Justice de l'année dernière qui s'exprimait, qui s'indignait contre la démolition de près de 300 logements. Aujourd'hui, lui-même, il est au cœur d'une affaire de démolition. Vous l'avez donc entendu. Selon lui, les décisions de démolition obéissent à des règles, mais en une année d'intervalle, le ministre aurait-il lui-même oublié ses propres règles? Voici sa réaction après les démolitions il y a quelques jours de ces 60 logements de Soso Souleymane Bourou.
Quand des gens disent qu'ils n'ont pas reçu d'acte et que sur le chantier, nous allons avec Lucie, que sur chaque parcelle, les gens refusent de prendre les actes, que le propriétaire du terrain leur a dit de ne prendre aucun papier. Comment voulez-vous informer ces propriétaires, moi j'allais dire, ces occupants illicites des lieux? Nous avons voulu qu'on arrête dans la compréhension. Nous avons mis des croix sur les maisons qui ont été illégalement construites. Deux jours après, ils sont allés effacer les croix. J'ai porté plainte. J'ai saisi même la brigade de gendarmerie qui est intervenue pour essayer d'arrêter les constructions sur le terrain. Ils n'ont pas réussi. Tout a été fait pour essayer de leur dire tout simplement, n'essayez pas d'imposer votre volonté au pays. On met le pays devant le fait accompli et on parlera après. Je ne gérerai pas dans ces conditions. Si je dois gérer, je le gère avec comme perd la loi et je le ferai. J'utiliserai la loi malienne pour régler les problèmes du Mali. Que cela soit entendu.
Célia, réaction après ces deux propos?
Je pense que les contextes sont différents. Je sais que mes confrères ne vont pas être d'accord avec moi, mais je ne dis que ce que je pense. Je pense que les contextes sont différents. Il y a un individu qui s'est levé de lui-même il y a un an, parce qu'il n'était pas content avec une situation, il a pris une décision, il avait les moyens et il a posé un acte qui a eu des conséquences assez déplorables. Un an après donc, le ministre Batili fait mettre en œuvre une opération de
démolition,
parce que c'est ça, de logements, mais de gens qui étaient informés depuis 2008, pour la plupart, qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Je pense que encore une fois, cette situation est déplorable. Il est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Mais c'est des gens qui savaient pertinemment qu'ils ne devaient pas être là. On est allé en reportage, qui ont dit, oui, je savais que le papier n'était pas bon. On m'a dit que cet endroit appartient à la CI. Mais il y a un autre propriétaire qui est à côté qui m'a dit, si je construis, personne ne va oser me chasser.
Alors, juste un détail, ce qui nous a fait, qui a fait que nous avons proposé ces deux extraits à des dates différentes, c'est l'hivernage. Justement, l'hivernage.
C'est la question de l'hivernage.
Des familles sont dans la rue.
Je le sais bien. En fait, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je ne parle qu'à mon niveau de connaissance et de compréhension, d'après ce que j'ai compris, ceux qui sont dans ces maisons ne sont pas, à Souleymane Bougou, ne sont pas les propriétaires des maisons. La plupart des gens sont des Maliens qui habitent ailleurs ou qui sont à l'extérieur et à qui on a vendu de manière frauduleuse ces terrains.
Nous avons reçu des victimes ici.
Des victimes ici qui
étaient dans les maisons.
Dans les maisons.
Qui ont été réveillées par les bruits des boules désert.
Et donc, là, si c'est le cas, eh bien, il y a problème. De toutes les façons, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où, quelle que soit la décision qui est prise, il va y avoir des gens lésés. Et c'est justement à l'État, je reviens à cette question de l'hivernage, de savoir faire la part des choses pour que, même si les décisions sont prises, leur application cause le moins de tort possible aux populations. Et là, je pense que peut-être qu'il y a eu un peu de précipitation dans la mise en œuvre de cette décision. Peut-être, il semble que la CIE aussi était acculée par la personne qui est le véritable propriétaire du terrain, et que la CI,
la CI qui a déjà encaissé de l'argent.
Voilà, on lui a donné un deadline pour donner la maison, sinon le monsieur allait les poursuivre, etc. C'est une histoire qui a énormément de contours qu'il faut maîtriser pour avoir une vue d'ensemble. Mais encore une fois, bon, je pense que quand on prend une décision qui effectivement engage la vie des gens, il y a des gens qui ont perdu des centaines de millions dans cette histoire. Bon, peut-être qu'il faut y mettre un peu de cœur aussi. Peut-être.
Pour la gestion. La FIA s'il n'a pas.
Oui, à ce niveau, la loi en question sur laquelle le ministre s'est basé pour démolir, en lisant l'article, il s'agit de l'article 67, on parle d'extrême urgence. Pour revenir à cette notion d'hivernage, je pense que on aurait pu attendre encore, surtout qu'il s'agit là d'une décision administrative. Parce qu'aujourd'hui, lors du forum de la presse organisé par la Maison de la Presse, la question a été posée au ministre de la Justice de savoir si toutefois toutes les procédures judiciaires ont été respectées dans cette démolition. Il a été clair, il dit que c'est une décision administrative. Donc l'administration, la CI...
L'administration qui est en cause avec l'implication du préfet, l'ancien préfet de Kati, qui a délivré les permis d'occuper.
Il est agent de l'État. Donc, ce que je veux dire à ce niveau, c'est que il y a deux parties qui sont en conflit. Le ministre est venu, il estime que les terrains appartiennent à l'État, que c'est des titres qui existent depuis 1947.
Faut-il faire fi, donc, de l'erreur du fonctionnaire?
Du fonctionnaire. Or, il a été... L'agent a agi, on le dit comme ça, en tout cas, on le perçoit comme ça, agi en lieu et place de l'État, parce que l'État lui a donné cette autorité-là. Maintenant, s'il y a une telle situation, est-ce qu'il fallait directement venir démolir pourquoi ne pas faire passer le dossier au niveau du tribunal? Parce que c'est le ministre de la Justice qui l'a dit. La question était de savoir si toutefois les procédures... Il dit qu'il n'y en a pas eu, parce que c'est une décision administrative. Donc ça, c'est... Et je ne sais pas s'il y a un lien, mais le même ministre de la Justice, j'ai eu un document, une lettre, à la date du 23 juin, lettre dans laquelle demandait à tous les procureurs généraux, aux procureurs, aux juges à compétence étendue, de faire tout pour tenir compte de cet aspect afin de donner un visage humain à notre justice. Je pense que à ce niveau, cela pose quelque part le problème de la solidarité au sein de l'équipe gouvernementale.
D'accord. Alors, nous allons nous tourner vers David Dembélé de la Dépêche du Mali. David, votre réaction après la diffusion de ces deux extraits?
Moi, je bondis toujours sur l'aspect procédure. Vous voyez, nous sommes sur le terrain. Nous avons écouté beaucoup de victimes comme vous qui maintiennent effectivement que la procédure n'a pas été respectée. Je pense que la moindre des choses, c'était d'émettre un préavis. Et nous avons eu des témoins, des témoignages. Qui font état qu'il n'y a pas eu de préavis. Même si c'est sur la base d'une décision administrative, je pense que le préavis, c'est quand même un préalable. Vous l'avez dit, il y a des gens qui vivaient sous leur toit et qui ont été réveillés par des bulldozers. Donc, Adama Diakité, que je vais citer, avait fait un investissement hier tout près, je suis allé le voir, il a fait un investissement de près de 100 millions sur son terrain. Donc, il maintient qu'il n'a pas
reçu
de sommation de quitter et il a été surpris tout comme les autres. Donc je pense que ce ministre qui s'est dit légaliste devrait s'atteler à ça. Moi je suis désemparé quant à la formule qu'il utilise pour vraiment conduire ce portefeuille là tout comme beaucoup de Maliens, les victimes également.
D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de passer la parole à Ayouba pour sa réaction après la diffusion de ces deux extraits du ministre Bati.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, comme tous les vendredis, invite les confrères de la presse pour débattre des questions qui ont animé donc l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous planchons sur trois sujets, la démolition des 60 maisons de Souleymane Bougou, le forum des femmes leaders du Mali qui s'est tenu cette semaine et également les programmes de logements sociaux au Mali. Plus de 2000 logements ont été attribués donc à des citoyens. C'était la cérémonie s'est déroulé hier, mais pour l'instant nous restons sur la démolition des 60 maisons de Souleymane Bougou et nous avons diffusé deux extraits du ministre Batili et nous attendons la réaction de Youba Konaté juste après c'est la diffusion de ces extraits. Youba, à vous.
Ouais, ok, merci une fois de plus Famoussa. Oui, dans le commentaire que vous venez de faire passer, vous avez vu vous-même, n'est-ce pas, le ministre est pris à son propre piège, c'est ses mots à lui. Il parle d'hivernage et ironie du sort, c'est pendant cette même période exactement qu'il démolit. Donc, vous comprenez hein, que. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai l'impression que dans ces pays, les gens font comme s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que comme si tout venait de commencer il y a deux ou trois jours. Non, nous sommes tous là. Tout le monde sait ce qui se passe dans ces pays.
On est témoins de l'histoire.
On est tous témoins de l'histoire. Les papiers, les trucs, tout le monde sait ce qui se passe. Mais on utilise la langue de bois. Les gens, ils viennent, ils disent non, non, ce qui est en faute, tout le monde le sait. La corruption, les trucs, c'est global, c'est un système, c'est structurel. Tout le monde le sait. Mais on fait comme si, non, il y a un monsieur... Et l'autre là, le ministre, je l'ai dit dans ma première intervention, rien ne plaide pour lui. C'est-à-dire que
le ministre Batili,
vous êtes là dans le populisme, dans la politique, dans tout est mélangé. Voilà. Il veut lui se faire des sommes. C'est ça le problème. Et quand David dit qu'il y a un monsieur sur le truc qui a investi près de 100 millions.
Okay. Il y a d'autres qui ont investi plus de 200 millions.
Voilà, il y a un problème.
Ils sont venus comme ça. Voilà. Du fait qu'ils avaient des documents
délivrés par la préfecture de
Kati. Voilà, c'est ça le problème. Puisque ceux qui sont en cause, c'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui dans le collimateur, ils ont des papiers. Il y a des papiers partout. C'est ça le problème. Maintenant, mais cette là de fait là, c'est quoi? Il faut qu'on se pose des questions. Ça, c'est quoi?
Démolir
et on dit, il faut que force reste à la loi. Que la loi est dure. Mais quelle loi? Quelle loi? La loi est dure, mais elle s'applique à tout le monde. Mais quelle loi? On ne manipule pas la loi. C'est ça le problème. Nous sommes encore à ces
stades. L'AFIA voulait réagir.
Oui, voilà. c'est par rapport à ça. Quoi, parce qu'à un certain moment donné de la vie, l'individu, l'être humain doit être conséquent avec lui. Et il faut dire que ce que le ministre Batil a fait n'est pas conséquent. Parce que vous ne pouvez pas, l'année dernière, dire qu'on a démoli, que ce n'est pas bien. Et l'année prochaine, l'année suivante, il y a les mêmes circonstances.
Le ministre a même qualifié ceux qui ont démoli de fous.
Et lui aussi se trouve dans cette situation aujourd'hui. C'est là où je dis qu'à un certain moment donné, il faut être conséquent avec soi-même.
Voilà. Alors, David.
C'est-à-dire que c'est la personne, ce personnage à polémique que constitue Batili. Vous savez, il fait comme s'il n'y a jamais eu de loi au Mali. Il fait comme s'il est l'apôtre de la législation, qu'il n'y a jamais eu de règlement, si ce n'est pas sous lui son air. Donc, c'est ce qui me frustre davantage. Moi, j'ai rencontré des gens sur le terrain qui n'étaient pas des victimes, qui disent qu'ils ne comprennent pas. Et vous m'excusez, ils ont même qualifié le ministre de fou. À un moment, j'ai dit, mais ils ont de bonnes raisons pour le faire. Donc, toujours est-il que la manière de faire n'y était pas.
Alors, Célia, chose
d'autre? Je pense que, en fait, dans cette histoire, tout le monde a raison. Et maintenant, il faut trouver qui a tort. Parce que il y a un niveau de responsabilité auquel, justement, quand on arrive... Voilà, justement, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on arrive à un niveau de responsabilité, il y a ce qu'on appelle aussi le courage politique. D'accord. Maintenant, est-ce que le courage politique, c'est d'aller casser les maisons? C'est vrai que tout le monde a décrié, Youba l'a dit, il y a un problème de corruption, mais incroyable. Nous avons des problèmes sur le foncier, c'est vrai. Maintenant, est-ce que quand il y a un problème sur le foncier, est-ce que quand des gens vont se mettre sur le terrain de quelqu'un d'autre, c'est au ministre de prendre une décision administrative et d'aller casser des maisons? Je ne suis pas spécialiste du droit, je ne saurais pas vous répondre. Encore une fois, je pense que, et c'est cela, il faut que le Mali ne perde pas cette valeur-là, qu'on a perdu peut-être un peu en Occident, où on se dit c'est le mercantile, c'est les textes qui parlent. Même dans les pays, même les pays les plus durs, je ne vais même pas jusqu'au social, je parle de l'humain, tout simplement. Et dans la réalité malienne, l'humain est au cœur de tout. Donc il ne faut pas que, c'est vrai qu'on veuille appliquer la loi, c'est vrai qu'on veuille montrer l'autorité de l'État, mais que l'autorité de l'État ne s'applique pas sur les larmes des Maliens, et c'est malheureusement ce qui est en train d'être fait. Moi, la seule petite interrogation que je voudrais prendre pour conclure mon propos, c'est, vous dites le programme de démolition de 60 logements. Mais non, ce ne sont pas 60 logements qui sont en cause. Il y en a beaucoup plus que ça. Les autres qui ont été épargnés. Pourquoi?
C'est là où j'ai parlé de deux poids, deux mesures. Car la loi, si elle s'applique, elle doit s'appliquer à tout le monde. Non. L'argument qui a été avancé, je trouve que c'est un argument fallacieux, sincèrement. Parce que on ne peut pas casser le jury et le vendredi dire que c'est l'hivernage, on attend. Et il dit que tout juste après l'hivernage qui va commencer. Pourquoi il ne commence pas maintenant? Parce que tout simplement, quelque part, on lui aurait monté les bretelles.
Voilà. Voilà, tout le fonctionnement du pays, c'est ça, justement.
C'est... Et c'est ce qui est grave.
C'est quoi? Deux poids, deux mesures.
Voilà, c'est ça le problème.
Est-ce qu'il faut attendre des sanctions après ça?
S'il y a faute, oui. S'il y a faute, oui.
La question reste.
Moi, j'espère vraiment que les victimes, si elles sont vraiment lésées par l'État,
le ministre dit avoir porté plainte.
Si les victimes se sentent lésées, parce que vous le dites là, c'est un préfet qui a signé les papiers, qui attribue les terrains. Ça veut dire que c'est l'État malien qui a donné ces terrains à ces gens-là. Donc, si l'État malien donne les terrains à la CI et qu'ensuite l'État malien donne les terrains aux gens, que les gens à qui on a donné les terrains poursuivent les gens qui leur ont donné le terrain. Et si le préfet représente l'État, les gens seront dédommagés.
Le ministre dit avoir porté plainte. Porter plainte peut-être contre le maire, contre le
oui,
préfet.
Oui, ça c'est une question administrative.
La responsabilité incombe à qui?
Oui,
à
non,
l'État,
écoutez,
ou bien aux fonctionnaires en question?
Yuba, le fonctionnaire, comme l'a dit l'Anfia, le fonctionnaire, au moment où il était en fonction, représente l'État. D'accord? Mon propos est très clair. Ces personnes qui sont aujourd'hui victimes, parce que c'est le mot qu'elles utilisent et elles se sentent dans cette position-là. Ces personnes aujourd'hui victimes ont bel et bien versé des sommes d'argent parfois très importantes, parce que c'était des terrains très prisés. Des sommes d'argent très importantes pour acquérir ces terrains. On leur a donné des documents officiels, les faisant propriétaires de ces terrains. Si la justice établit la légalité des documents qu'ils ont en leur possession, eh bien, ils sont lésés. Et en position de personne lésée, ça risque de coûter plus cher à l'État que les 100 millions que ces maisons ont coûté.
Et au-delà de cela, le préjudice moral.
C'est
parce
clair.
Que même si on va reconstruire ces maisons-là, c'est des gens qui étaient à l'aise, c'était dans des maisons. Brusquement, on vient les faire sortir sous la pluie. C'était pénible de voir des gens sortir avec des morceaux de meubles.
De toute une vie.
Sortir avec des morceaux de meubles.
Certains ont même contracté des prêts.
Récupérer ce qu'il y avait dans les maisons.
Exactement.
C'est ça.
Et certaines victimes ont contracté des prêts, certes pour la plupart deux fois, auprès des banques. Pour en arriver là.
Parce qu'on devait tenir compte de tout cela. Quoi. L'aspect sociologique, le fait de dire au Mali, n'est qu'à ça aussi chez moi. Et brusquement, tout d'un coup, venir faire sortir les gens comme ça. Le préjudice moral, là, même si on va reconstruire, c'est quelque chose qui affecte ta vie. Je pense qu'on devait agir dans cette affaire avec discernement, faire preuve beaucoup de sagesse. Parce que je ne suis pas juriste, mais la loi, quand je regardais la loi en question, l'article 67, dès le début, on parle de cas d'extrême urgence. Je ne pense pas, à mon avis, qu'on soit dans ce cas d'extrême urgence.
Dans le cas d'extrême urgence.
Justement, mais de là jusqu'à aller démolir, faire sortir les gens c'est là où je me dis que...
Nous allons quitter Souleymane Bougou. Nous allons quitter Souleymane Bougou. Nous traversons le fleuve et nous allons à Tabakoro avec ce programme de logements sociaux qui ont été donc de logements, les 20 000 logements qui vont bientôt être distribués aux populations du Mali. Et ça, c'est un nouveau programme, mais pour l'heure, il y a eu 2000 et quelques qui ont été distribués déjà. C'était lors d'une cérémonie hier présidée par le Premier ministre Modibo Keïta. Alors, 500 autres logements vont être distribués, construits dans le pays, dans les provinces donc, du pays. Alors, ces 20 000 logements, Yuba, 50 000 d'ici 2018. Sous les Rebecca.
Oui, c'est une bonne chose. C'est un programme en ATT qui continue, même si on ne veut pas qu'on le dise, n'est-ce pas? C'est un programme ATT qui continue.
À l'époque, on ne voulait même pas parler de programme
voilà.
ATT.
Voilà, donc
aujourd'hui, c'est comment les nommer?
Moi, je ne sais pas. C'est
j'ai dit quelque part, Ibekabougou.
Voilà, maintenant, je dis, c'est la construction des logements sociaux, c'est une bonne chose pour un pays comme le Mali, où les fonciers, c'est-à-dire avoir un choix, vraiment, pratiquement, l'objet même de l'existence des individus, c'est une très bonne chose que ces programmes-là continuent. Mais entre-temps, il va falloir peut-être que les autorités mettent du sien là-dedans pour un peu parfaire les pratiques, puisque autour de cette histoire-là, n'est-ce pas, il y a beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr que ça, c'est des choses avec lesquelles il faut compter, mais on peut faire des efforts vraiment pour assainir davantage, améliorer, pour que ceux qui ont longtemps trimé, n'est-ce pas, ceux qui sont à leur cinquième, huitième dépôt de dossier, on pense à ces gens-là, que ces gens-là puissent avoir. Maintenant, ce qu'on dit de côté, que le ministre a fait bénéficier, bon, je suis un peu désolé, mais ça se passe comme ça.
Alors, l'AFEA,
à ce niveau,
les conditions déjà avaient fait l'objet de beaucoup de polémiques, les conditions de candidature.
De candidature, effectivement. Jusqu'à ce qu'on a dit qu'on ne doit plus parler de logements sociaux, mais de logements commerciaux, compte tenu du coût. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que le ministre, en juin, il avait déclaré que ceux-là qui n'avaient pas bénéficié, qui avaient déposé plus de 3 fois, auront des logements sociaux.
Mais seront prioritaires.
Prioritaires. Donc, ils seront bénéficiaires, entre guillemets. Mais bizarrement, il y en a qui ont
postulé pour la première fois.
Qui ont eu, et d'autres qui ont postulé plus de 7 fois. Parce que le président, il y a un collectif qui a été critiqué, il y a parmi eux des gens qui ont postulé plus de 7 fois. Et il y a même, sur Internet, j'ai vu la réaction d'un monsieur qui a mis son numéro de dossier, qu'il a postulé. Il est à sa 7e fois, il n'a jamais eu. Quelque part, et comparer tout cela à tout ce qui s'est dit autour de la liste des gens qui ont eu plus de 2 fois, 3 fois, je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas, il y a des noms qui sortent.
Est-ce que ce n'est pas le statut aussi qui pose problème? Il y a des particuliers, il y a des fonctionnaires. Est-ce que les fonctionnaires, dans ce que dit le ministre, les fonctionnaires ne sont pas les plus les personnes mises en avant dans ce programme?
Ah, mais au début, cela n'a pas, on n'a pas évoqué
cela.
On a
globalisé.
On a globalisé. On a dit logements sociaux pour les Maliens. Et on a invité les gens à postuler. Maintenant, pour revenir à cette histoire de liste toujours, pourquoi? À ma connaissance, depuis que ça a commencé, il n'y a jamais eu cela. C'est-à-dire que des noms sortent ici, avec un numéro, on trouve d'autres, des bénéficiaires à plusieurs niveaux. C'est là où je me dis qu'il faudrait revoir
les mêmes personnes
les
qui
mêmes
ont
bénéficié plus d'une
de plusieurs fois. Logements.
Plusieurs logements. Pourquoi? Au même moment, il y en a qui ont postulé.
Est-ce que ça peut être des erreurs de frappe?
Bon, je ne sais pas. On va le mettre comme ça.
David.
Pour le faire bénéficier du doute, le bénéfice du doute. Sinon, en réalité, ça doit avoir une autre explication.
Alors,
et c'est ce qui est très grave, parce que c'est une promesse. On avait promis aux gens que les critères vont changer, que ça ne sera plus comme avant. Mais malheureusement, ça a été...
C'est pire.
C'est l'une des situations les plus pires.
Carrément.
Et c'est ce qui est très, très grave. C'est pas du tout bon dans la gouvernance.
David.
Je pense qu'il faut, nettoyer à grande eau ces secteurs-là. Et tous les régimes, bon, le dernier régime, l'avant-dernier régime en avait fait son cheval de bataille, au point de susciter des engouements fous autour des logements sociaux. Alors, juste pour dire que le système n'a pas changé. Le fait d'ailleurs que la date de remise des clés soit... Décalé d'un mois, c'était initialement prévu pour le 30 juin.
On est repoussé, le voilà, fait qu'on ait repoussé la date.
Voilà, des proches du régime ont fait avancer certaines raisons qui ne tiennent pas. Je pense que ça cache mal toutes les magouilles et irrégularités. Qui sont derrière cette affaire-là. Sinon, comment expliquer les doublons que l'Amphi a dénoncé tout à l'heure? Je ne peux pas admettre Je ne peux pas admettre des erreurs de frappe sur un travail aussi
sérieux.
Voilà, auquel on attend beaucoup de sérieux.
C'est
donc dire que vraiment, le système s'enfonce, ça prend de l'eau.
C'est lié.
Oui, bah, que dire d'autre? Que dire d'autre? La situation est là. Moi, encore une fois, il y a ces projets qui sont financés à hauteur de centaines de milliards. Un argent qu'on prend quelque part et qu'on va devoir rembourser, puisque les gens qui rentrent dans les maisons vont les rembourser. Et que ça suscite autant de frustration, c'est normal. Il y a 1500 maisons, il y a 15 000 demandeurs. Ça veut dire qu'il va y avoir 14 000, c'est ça? Est-ce que j'y arrive?
Plus de 50 000
Non, d'ici 2018. Il y a 15 000 demandeurs et il y a eu 1500. Ça fait 10% de maisons disponibles. Alors, c'est normal qu'il y ait des frustrations. Maintenant que ces frustrations ne soient basées que sur le fait qu'on n'ait pas eu de chance, d'accord. Mais si l'on se rend compte qu'en fait, on a été lésé, que des gens qui ont déjà 4 villas, bien connues dans Bamako, bénéficient de logements sociaux, pendant que le pauvre monsieur qui a son 150 000 francs de salaire, qui paye 80 000 francs. Oui, voilà, nous autres là, qui cherchons à sortir de nos 50 000 francs de loyer pour rentrer quelque part où on sait qu'au moins c'est chez nous. Et quand on aura fini de payer, ce sera chez nous, vous voyez.
Dans 20 ans.
Même si c'est dans 50 ans. Tu sais, quand tu sais que tu es en train de. Ça va devenir pour toi.
Tu es motivé.
C'est différent que si tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, et je pense que c'est ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui à remettre dans la tête de ceux qui nous gouvernent. Il faut que l'humain revienne en priorité dans nos politiques. Parce que. Quoi qu'on dise, quand on pose des actes qui causent des frustrations, on est dans un monde où les choses vont tellement vite qu'il faut que nous fassions attention. Et le Mali veut se développer, le Mali veut être émergent, mais le Mali ne peut pas être émergent sans ses enfants, sans ceux qui travaillent vraiment, je ne veux indexer personne, et ceux qui travaillent vraiment, il faut que ceux qui nous gouvernent leur montrent qu'ils pensent à eux, qu'ils savent qu'ils sont là et qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie réellement.
Juste une pause et nous nous retrouvons pour la prolongation de ce thème.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Notre page Facebook et notre compte Twitter sont donc là pour vous, pour vos réactions à cette émission ou à toute autre production du studio Tamani. Notre site web également pour réécouter cette émission si vous le souhaitez. www.studiotamani en un seul mot.org. Alors Yuba, je reviens vers vous. Ces logements sociaux ont été octroyés. Il y a une trentaine qui revient à l'équipe de basket. Qui est l'équipe de foot, qui est donc les Aiglons, champions d'Afrique. Aujourd'hui, c'est 30 logements. Les Aiglons ont été champions 4 fois. Est-ce que à chaque victoire, il faut attribuer un logement?
Bon, c'est pas moi qui vais m'opposer à ça. Après, les gens vont me créer des problèmes. Non, c'est-à-dire qu'il y a. Bon, nous faisons de la politique de nos moyens. C'est ce qui était plus facile. Il y avait des logements en construction en cours. Et voilà, la victoire des Aiglons est tombée. Voilà, on les a fait promesse. Bon, c'est peut-être une bonne chose, puisque même à eux aussi, ça va apporter du bonheur. C'est ce qui est surtout recherché.
Les Aiglons sont champions pour la quatrième fois.
Quatrième fois.
C'est ce que faut-il j'ai dit, leur octroyer des logements?
Oui, c'est de déjà, basket. De basket, oui, mais le coup est déjà parti. Où on va trouver les trucs? C'est ça, justement.
Il y a 20 000 qui arrivent.
Qui arrivent. Ah oui, certainement qu'ils vont faire promesse à ces gens-là sur ce qui arrive, puisque nous faisons la politique de nos moyens. Justement, c'est ça. Bon, surtout que nous autres, des pays comme le nôtre, on n'a pas beaucoup de victoires. Si c'est sur ces secteurs-là, nous parvenons à faire des victoires, peut-être qu'il est bon de les célébrer. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, ma sœur le disait tout de suite, il y a un problème de justice sociale. On ne va pas crier, faire semblant comme si la chose commence aujourd'hui, non. Mais peut-être que c'est ce que nos responsables doivent comprendre de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a des choses qui se sont passées dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête. qu'on donne libre cours à la compétition, qu'on commence à motiver, à récompenser les gens qui sont bons. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait le développement, Famoussa? Qu'est-ce qui fait le développement?
La motivation?
Pas du tout. C'est les ressources, des ressources humaines. Des gens qui sont intelligents, qui réfléchissent et qui produisent des idées, des bonnes idées pour faire avancer le pays. Donc, pour ces gens-là,
qui?
Ceux qui sont bons, qui produisent et qui font produire de bonnes choses pour faire avancer le pays. Ce sont ces gens qui font avancer le pays. Mais est-ce que vous savez, Famoussa, que dans notre pays, il n'y a pas une seule école d'élite au Mali?
Il y a l'ENI. Il y a l'ENI.
Bon, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Famoussa.
Il n'y a pas une seule école d'élite ici.
Tu vois.
Je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit par rapport à la motivation.
En deux mots.
Tout le monde cite les États-Unis comme le pays du rêve américain. Vous savez ce que c'est le rêve américain? C'est de se dire, si je me bats, je vais y arriver.
Voilà.
Au Mali, les parents disent aux enfants aujourd'hui, pourquoi tu te fatigues pour te battre?
Voilà.
Tu fais comme les autres et puis avance.
Voilà.
C'est ça l'éducation que nous donnons à nos enfants.
Ça signifie
aujourd'hui.
Quoi faire comme les autres?
Ah, Famoussa, le piment dans ta bouche.
Ah, voilà. Non, ma Famoussa, David, peut-être que tu vas me permettre de terminer quand même cette réflexion.
Rapidement, Yuba.
C'est-à-dire que. Mais quand je dis des gens, il n'y a pas d'école d'élite au Mali. Mais il n'y en a pas du tout. Vous n'allez pas me créer. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Où il y a une école de polémique d'élite au Mali? Mais vous n'allez pas me dire que parmi les 14-15 millions de Maliens et les 300-400 000 personnes qui naissent chaque année, qu'il n'y a pas de gens intelligents. Ces gens, on les récupère dans un système. C'est partout, dans tous les pays du monde, c'est comme ça se passe. On les récupère. C'est les surquis. Il faut créer les surquis pour les récupérer.
Il faut créer les surquis.
Ce sont ces gens qui réfléchissent et qui font développer le
David,
pays. Il n'y en a pas.
Merci,
a pas.
Yuba.
Donc, David. Ça veut dire que nous, on n'a même pas entamé encore notre processus de développement.
David.
Oui, juste sur la question. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune espèce de mal à ce que le mérite soit récompensé. Je pense que c'est même gage de performance, ça suscite l'émulation. Voilà, donc c'est pas mauvais en soi. Mais je pense que pour revenir un peu à ce que Célia disait, mettre l'être humain au centre des politiques, ça me renvoie aussi au professeur Nyang, Ablé Nyang, qui prêche cela. Et mettre l'être humain au centre. Mais la dure réalité est que c'est le dernier des soucis de nos dirigeants. Je pense que si l'être humain était, encore que ce secteur, les logements sociaux, si on pensait davantage aux plus démunis, on dit logements sociaux, est-ce qu'ils ont leur part dedans? On parle des F4, F5. Ou certainement, il faut débourser au minimum 40 000, 45 000 pour quand même pouvoir rembourser le Malien.
Par mois, le mensuel.
Voilà, le Malien démuni, est-ce qu'il peut s'en sortir? Donc, je pense qu'il faut revoir cette politique-là et faire en sorte que l'indigène, pourquoi pas, puisse avoir son compte dedans.
D'accord, le Malien moyen.
Je voudrais insister sur un aspect. On peut peut-être dire que
pas commercial.
Bon, ça a tendance à aller dans ce sens.
La vie.
On va dire peut-être que je vais envenimer, mais c'est pas ça. Mais ce qui s'est passé, c'est très grave. Parce que même si on triche, il faut faire avec intelligence.
Quand il y avait quoi? Cette année,
il y avait le programme actuel. Les histoires de doublons des gens qui ont eu des F4, des F3. C'est cette erreur, j'ai dit comme cela, parce que. Il faut faire bénéficier à l'intéressé, comme le bénéfice du doute. Mais il fallait faire autrement. Et ce qui est très grave, c'est des situations qui créent des sentiments de frustration, d'indignation qui poussent à la révolte. Et quelque part, ça doit interpeller le président de la République lui-même. Parce que, oui, il a été élu par les Maliens et dès qu'il a été élu, il a annoncé un certain nombre de mesures. Maintenant, on se demande, toutes ces mesures annoncées, tambour battant, qu'en est-il aujourd'hui?
Non, mais c'est revenu, désormais c'est bon.
C'est bon.
Oui.
Bon, je voudrais être rassuré. Ah bon?
Nous allons parler des femmes. Les femmes étaient réunies cette semaine pour le forum des femmes leaders qui a vu donc la participation de plusieurs femmes venues du monde entier
Cette semaine donc, à Bamako, le forum des femmes leaders, la rencontre réfléchissait sur plusieurs sujets, notamment sur la représentativité des femmes au sein des organes de décision, mais également l'implication des femmes dans le processus de paix enclenché donc au Mali. Mais tout ceci évoque la question de l'éducation de la petite fille au Mali. Alors Célia, que peut-on dire de l'éducation de la petite fille pour l'émergence de la femme?
Oh, l'éducation de la petite fille est la clé de l'émergence, pas seulement de la femme, hein, de l'émergence tout court. Parce qu'une femme qui est éduquée, c'est une famille qui vit bien. Ça, c'est même pas en milieu, on va dire, occidentalisé.
Est-ce que les femmes leaders n'oublient pas ce combat?
Les femmes leaders n'oublient pas ce combat. Les femmes leaders ont beaucoup de combats à mener. Hein. Elles ont le combat de leur propre valorisation.
Vous dites que ceci est la base.
Oui, ceci est la clé. De toute façon, si elles ont la chance aujourd'hui d'être leaders, c'est parce que la plupart d'entre elles ont une éducation. Quand je parle d'éducation, c'est pas forcément l'éducation occidentale. C'est pas forcément avoir été à l'école du blanc. Même celles qui ont fait des médarsas ont une capacité de mener les autres.
Ou étudier jusqu'à un certain niveau.
Ont cette capacité de mener les autres. Donc c'est pas forcément de savoir écrire ou lire. C'est d'avoir une mentalité. L'éducation, c'est ça.
Éveiller.
C'est apprendre les réalités de la vie et avoir les outils pour les affronter de manière efficace. Et ça, c'est la clé du développement de l'Afrique, c'est la clé du développement tout court. Et les femmes leaders, je pense, au jour d'aujourd'hui, je souris quand j'entends ce terme « femme leader », parce qu'aujourd'hui, toutes celles qui ont la capacité de parler français à la télé se disent « femme leader ». Mais il y a réellement des femmes leaders. Dans nos quartiers, les mamans qui arrivent à mener les tontines, à faire des choses. Il y a de vraies femmes leaders. Et je ne veux pas jeter l'opprobre sur celles qui on voit à la télé. Il y en a aussi qui sont extraordinaires, qui font vraiment bouger les choses. Et je pense qu'il est le mérite qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'elles sont des porte-voix. D'accord ? Elles ont aujourd'hui la capacité d'être vues par des centaines, par des milliers, par des millions de gens et de parler au nom de toutes celles qui sont derrière. Et ce travail, elles le font admirablement bien. Dans la question de la paix au Mali, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je pense que nous avons un rôle, nous les femmes, je me permets parce que je suis la seule sur ce plateau.
C'est fait pour ça.
Nous avons un rôle incroyable à jouer parce qu'encore une fois, on l'a dit, les frustrations, les douleurs sont là. Et il n'y a personne de mieux pour penser un cœur qu'une maman, qu'une épouse, qu'une sœur.
David Amélie.
Donc, nous avons ce rôle-là à jouer et c'est très important.
D'accord. Je pense que le combat, il s'intensifie de jour à jour. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'ONG qui travaillent dans le sens de l'épanouissement de la petite fille. Je pense que l'éducation est un axe, est un maillon très important de cet épanouissement-là. Et je pense que les politiques doivent suffisamment soutenir ce combat. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais les organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain méritent d'être renforcées, fortement soutenues. Je salue beaucoup le combat de ONU Femmes actuellement qui se bat pour...
L'émergence, la promotion de
la femme. Donc c'est un combat qui est à soutenir. Et effectivement, je pense que l'éducation de la femme...
La petite fille.
De la petite fille.
La femme, c'est autre chose.
Promet un avenir certain.
D'accord. Voilà. Alors, Lafia.
Comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais moi, je voudrais faire une petite exception parce que très souvent, quand nos mamans parlent...
Attention, il y a une femme à côté de toi.
Oui, le 31 juillet. Non, moi, je suis avec les femmes parce que j'aimerais réussir. Quand on célèbre le 31 juillet, un monsieur qui était profondément attaché à nos traditions, mais qui s'est battu aussi pour la promotion des femmes africaines. Je vais parler de Amadou Ampateba parce que je me rappelle quand la question lui a été posée de savoir quel est, selon lui, Amadou Ampateba, l'avenir de la femme africaine. Il disait qu'il n'y a pas de problème de femme africaine. Il y a tout simplement un problème de femme. Et que l'avenir de la femme africaine, c'est l'avenir de la femme du monde entier. Raison pour laquelle il disait justement qu'il est temps qu'on puisse aller, de telle sorte qu'on puisse nettoyer cette différence qui existe entre la jeune fille et le jeune garçon du point de vue de la scolarisation.
Merci beaucoup, Lafia. Yuba.
Oui, c'est sûr que l'éducation de la petite fille est une très bonne chose. Il va falloir intensifier les efforts dans ce sens. Mais je me méfie des uniformes, hein, contrairement à David.
Merci, Youba. C'est donc la fin de cette émission. un clin d'œil à certains de nos grands fidèles, professeur Abdoulaye Niang et également Ousmane Cornuo. Bonjour à vous si vous nous écoutez. Merci à vous pour votre constante fidélité, chers auditeurs. C'est donc la fin de cette émission qui regroupait autour de moi Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Lafia Sinaba, journaliste indépendant, Yuba Konaté du Zénith Balé et David Dambélé de la Dépêche du Mali.com. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Gagné Kanté était à la technique. Salim Douara était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt pour un autre débat. Bonsoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.